France Culture.
France Culture, la fabrique de l'information, François Celtiel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. J'en profite au nom de toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle année 2026. Nous pouvons déjà parier qu'elle ne manquera pas d'actualité et je vous remercie chaleureusement de nous accompagner. Depuis le mois de septembre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Cette semaine, nous ouvrons l'année avec un grand entretien d'une journaliste passée par tous les postes et les médiums, chroniqueuse et éditorialiste sur les chaînes de télévision, France 2, Canal+, ou BFM, les studios de radio, notamment sur Europe 1 avant sa mutation bolloréenne, et depuis plusieurs années sur France Inter, et bien entendu la presse écrite, noyau dur de son activité avec l'hebdomadaire Marianne, qu'elle a fini par diriger pendant un septennat. Natacha Polony est notre invitée, il sera intéressant de retracer avec elle la couverture médiatique des grands bouleversements de l'année 2025, de l'instabilité politique de la 5e à l'incarcération de Nicolas Sarkozy, en passant par la montée en puissance du Rassemblement National tout en observant les événements internationaux de Gaza à l'Ukraine où Donald Trump cherche constamment à se placer au centre du jeu. Concentration des médias, polarisation des idées et impact des réseaux sociaux. Nous allons discuter de tous ces sujets pendant une heure avec celle qui ne manque ni de conviction ni d'audace. Bonjour Natacha Polony.
Bonjour.
Si je parle d'audace, c'est bien pour présenter la revue que vous venez de lancer et qui emprunte ce nom, L'Audace, une revue trimestrielle dont le premier numéro est sorti début décembre. Nous allons revenir sur sa ligne éditoriale et les défis qu'animent cet objet de papier à l'heure de la numérisation du monde. Nous pourrons également compter sur un partenaire fidèle à la fabrique. Il s'agit de Courrier International qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère avec Julien Abiramia. Bonjour Julien.
Bonjour.
Quel est le programme de cette première chronique de l'année?
Eh bien, on va faire le récapitulatif de l'année 2025, vu par la presse étrangère.
Et voilà, vous avez le sommaire complet de l'épisode 18 de La Fabrique de l'Information, une émission à écouter à la radio ou à retrouver quand vous le désirez sur l'application Radio France.
Moi, Donald John Trump, je jure solennellement.
Moi, Donald John Trump, je jure solennellement
que j'exercerai fidèlement, la fonction de président des États-Unis. Félicitations.
Je vous parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction dans votre pays.
Vous n'êtes pas dans une bonne position, vous n'avez pas les cartes en main.
Le 28 février, la chaîne C8, propriété de Canal+, a cessé d'émettre. Après 36 alertes et sanctions et plus de 7 millions d'euros d'amende, sa fréquence lui a été retirée par l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel.
On est en train de s'habituer tous en France au recul de la liberté d'expression. Il y a une chaîne, en l'occurrence C8, qui va fermer. C'est une décision que je considère comme politique.
Le temps est venu. C'est pourquoi, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Quelques mots spontanés au moment où j'ai remis la démission du gouvernement. On ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies.
Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron 5 jours seulement après avoir remis sa démission.
On le rappelle, si vous nous rejoignez, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, est donc condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé.
S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute.
Ça nous parle de cette union des droites qui, en fait, fait fantasmer à peu près tout ce qui va du Rassemblement National jusqu'à très, 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 très loin dans le centre droit. Pourquoi ? Parce qu'il y a, en apparence, une dynamique de victoire. Sauf que tous ces gens, en fait, oublient qu'ils sont minoritaires.
Une rétrospective forcément non exhaustive de cette année 2025 et puis pour ouvrir donc la suivante 2026, un nouveau-né pour une nouvelle année avec vous Natacha Polony et donc cette revue dont je parlais en introduction, L'Audace, comment vous pourriez définir sa ligne éditoriale ?
Sa ligne éditoriale, elle est assez simple. Elle entend réunir tous ceux qui croient que nous ne sommes pas condamnés à voir le pays s'effondrer. Donc tous ceux qui croient en la France, qui croient en la possibilité de défendre les intérêts des citoyens français et les intérêts de l'Europe dans ce monde dont on a entendu dans cette introduction à quel point il est en train de bouger, à quel point tout cela prend des allures de violence extrême. Et puis l'idée, c'est de dire, on va se redresser par la production sur le sol français. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, toutes les idées peuvent s'exprimer et il peut y avoir des confrontations du moment que ce sont des confrontations argumentées.
D'accord, donc si on comprend bien le socle commun de ces voix parfois dissonantes, et vous allez nous expliquer d'ailleurs à quel point elles le sont, c'est de considérer que la France est en déclin, du moins qu'il y a une menace, et que pour essayer de s'en sortir, il faut reconstruire en partant justement du sol français. C'est le Made in France que vous... dont vous assurez la promotion régulièrement sur vos déclarations.
Oui. Alors, vous savez, le problème, c'est que tous les termes sont abîmés depuis des années. Mmh. Donc, quand on parle déclin, on entend derrière, attention, déclinisme, donc ce seraient des gens pas fréquentables. Non, les Français voient bien que nous traversons des crises. Et des crises qui sont de plus en plus profondes et qui sont de plus en plus inquiétantes. L'année 2025 a connu une fois de plus des records de défaillances d'entreprises. On voit les agriculteurs qui sont en train de, tout simplement, mais de souffrir et de risquer pour certains de disparaître. On voit à quel point notre marge de manœuvre est réduite et nous empêche de peser comme nous devrions le faire sur la scène internationale. C'est-à-dire que la France a vocation à faire entendre une voix qui est une voix qui est censée n'être pas alignée sur, par exemple, les États-Unis, ou pas totalement. Nous sommes alliés, nous ne sommes pas alignés. Bon, tout ça devient de plus en plus difficile parce que nous sommes affaiblis. Nous vivons une crise politique dont, là aussi, les extraits que vous avez passés ont donné quelques éléments, mais qui inquiète les Français. Enfin, en 2025, nous avons donc découvert que le sujet d'inquiétude principale des Français, c'est la vie politique. En fait, quand vous discutez avec des gens partout en France, il y a une colère contre les politiques qui est gigantesque. Donc tout ça, c'est en train de bouillonner. Et il faut y apporter une réponse. Et la réponse que j'essaye d'apporter, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'on peut aller cultiver son jardin. J'irai sans doute un jour, mais pour l'instant, je crois qu'on peut encore faire quelque chose. Donc je me dis qu'il doit y avoir des gens qui croient en la France comme projet politique absolument génial, et que tous ces gens-là, il faut qu'ils proposent des idées, qu'on se rassemble et qu'on prenne en main le destin de ce pays pour essayer justement de ne pas sombrer dans une dépression dont le résultat sera très dangereux pour la démocratie.
On voit effectivement que peut-être tout tient dans la parenthèse de ce premier titre avec cette une, comment la France et l'Europe se sont sabordées. Donc là, on est quand même dans un narratif du moins décliniste, enfin du moins de crise, sabordée, et comment les relever, donc entre parenthèses. Donc là, on voit qu'il y a une ambition et une volonté d'apporter des solutions et une reconstruction.
Alors déjà, là, cette phrase, narratif décliniste, enfin, vous avez vu comme moi, Ursula von der Leyen, en Écosse, en train de s'aplatir devant Donald Trump. Est-ce qu'on a envie que ce soit ça, l'Union européenne? Est-ce que nous tous, là, dans ce studio, et tous ceux qui nous écoutent, nous pensons que le projet européen a été fait pour que Ursula von der Leyen aille promettre à Donald Trump que les pays européens vont aller acheter du gaz naturel liquéfié, et que oui, nous achèterons des armes américaines pour enrichir les Américains qui nous les surfacturent, etc., etc. Non. Moi, je crois que l'Europe, c'est pas ça. L'Europe, c'est une civilisation, d'abord, qui a une conception de la liberté humaine que je trouve appréciable, qui n'est pas exactement celle des États-Unis. Et l'enterrement de Charlie Kirk, qui a eu lieu cette année, nous a montré à quel point le fait qu'en Europe, on puisse penser les sociétés civiles en dehors de la transcendance est quelque chose d'extrêmement important. Et que la montée des religions dans leur version la plus radicale, la plus intransigeante, eh bien, ce n'est pas notre modèle, et c'est dangereux. Donc tout ça, voilà, c'est l'Europe en laquelle je crois. Donc j'ai pas envie qu'elle ressemble au spectacle qu'elle a donné, notamment pendant l'année 2025.
Et donc vous diriez que c'est ce vide médiatique que l'audace comble, cette ligne que vous venez de développer?
Oui, parce que, hélas, je trouve que cette ligne-là n'existait pas. C'est-à-dire que vous avez soit des gens qui vous expliquent que les choses telles qu'elles sont formidables, et que quiconque critique est, au choix, décliniste ou quelque autre nom d'oiseau, soit ceux qui, en fait, adhèrent au projet, par exemple, qu'on voit se développer partout sur le continent américain, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Argentine, que ce soit au Chili. Et on est en train de voir là, actuellement, une vague néolibérale et en même temps d'un néolibéralisme revisité, appuyé sur les réseaux sociaux, sur une conception qui va contre le droit international, contre les régulations. Tout ça, là aussi, est un bouleversement dont il va falloir prendre la mesure. La mode du milléisme et des tronçonneuses me semble aujourd'hui devoir être d'abord analysée et ensuite contrée, parce que c'est une vision qui va à l'encontre totalement de la conception française, de la République, de la place de l'État, de la protection des plus faibles et du principe de méritocratie qui est au cœur de la République.
Alors, pour essayer de comprendre et de faire le portrait peut-être de cette revue, l'audace, vous qui êtes passé par de nombreux médias, j'en ai cité quelques-uns, et encore une fois, là aussi, la liste n'était pas exhaustive, vous diriez que c'est un mélange de quoi, l'audace ? Alors, vous allez me dire qu'il est unique, mais il s'inspire de quelle ligne, de quel média que l'on peut connaître ? Est-ce qu'il y a un peu de Marianne dans l'audace ? Est-ce qu'il y a un peu de... Comment vous pourriez le définir ?
Oui, bien sûr qu'il y a un peu de Marianne, tout simplement parce que si je suis arrivée à Marianne en 2002, c'est parce que ce journal correspondait à ma vision, à mes convictions, et qu'ensuite si j'ai dirigé Marianne, c'est justement parce que je pouvais lui maintenir cette ligne très particulière qui était la sienne. Donc oui, bien sûr qu'il y a, un peu de Marianne dans l'audace. Après, il y a des inspirations qui sont autres et qui sont pas forcément des inspirations d'ordre médiatique. C'est-à-dire que c'est une revue. Alors si, il y a par exemple, et de façon explicite, l'idée de maintenir la possibilité d'un débat, c'est-à-dire le fait de faire discuter des gens qui ne sont pas du même avis. Ça, c'était le projet de Pierre Nora et de Marcel Gauchet quand ils ont fait justement la revue Le Débat au début des années 80. Et ils ont arrêté il y a quelques années en disant qu'ils avaient l'impression que c'était de plus en plus difficile. Donc, c'est devenu un combat de faire écrire dans une revue des gens qui ne pensent pas la même chose. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face à des gens qui vous disent « Ah non, moi je veux bien écrire, mais je ne veux pas être à côté de machin. » Ça, c'est pas possible.
Même s'il me semble, dans votre revue, Natacha Polony, il n'y a pas non plus d'entretiens croisés ou de grandes rencontres de débat. Il y a des contributions, effectivement, de voix dissonantes. Voilà, mais ils ne se rencontrent pas. C'est-à-dire qu'ils ils existent dans le même espace, mais il n'y a pas de rencontre.
Alors, pour une raison qui est parfaitement assumée, c'est que le but n'est pas de faire du clash. Le but, c'est que chacun puisse développer ses arguments. Et si vous lisez, par exemple, le dossier sur la France, l'Europe, vous verrez que vous avez un économiste comme Christian de Boissieu, qui est plutôt pour un fédéralisme européen, qui, par exemple, défend l'idée du 28e régime, qui est un projet européen contre lequel je me positionne. Vous avez David Kaila, qui, à mon avis, ne doit pas être totalement pour le 28e régime, mais qui, surtout, a des positions qui sont beaucoup plus en faveur du protectionnisme. Donc, ces gens-là écrivent dans la même revue. Mmh. Ça, c'est une victoire. Après, organiser des clashs, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les lecteurs lisent tout cela. Ils sentent qu'il y a quand même une ligne dans cette revue et qu'ils savent à peu près quelles sont mes idées.
Vous
à moi.
Avez rappelé le socle commun. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace entre le clash et, on va dire, le monologue ?
Alors, c'est pas du monologue dans la mesure où, encore une fois, on se place du point de vue du lecteur. Le but, c'est que le lecteur se forge sa propre idée. Mmh. Et pour ça, il a le temps de lire des arguments et de se construire sa propre argumentation à partir de cela. Donc après, l'idée, c'est évidemment de déployer la revue à travers des conférences, à travers des déplacements en province, où là, il y aura de la discussion entre les différents auteurs et les lecteurs. Mais dans l'espace de la revue, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des articles de qualité, argumentés, où on peut construire une argumentation, vous voyez. C'est-à-dire que cette idée qu'on met deux personnes face à face et que elles vont on va dire, que vous aurez noir ou blanc, ça je préfère avoir toutes les nuances de gris, parce que c'est ça, en fait. Mmh. C'est toutes les nuances de gris. Alors que quand vous mettez les gens face à face, ils ont tendance à amplifier leurs divergences et ils sont plus dans la construction de leur propre pensée. Mais vous voyez, ça, oui. Donc vous avez les.
Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites médiatiquement, parce que c'est un peu l'aveu là de l'incapacité dans un espace médiatique, qu'il soit télévisuel, radiophonique ou de presse écrite, d'organiser les termes d'un débat qui ne tomberait pas dans le clash, qui ne tomberait pas dans
l'incapacité. On pourrait le faire.
Mais vous, est-ce que vous avez vu par exemple ces conditions du débat potentiellement se dégrader depuis 15-20 ans, depuis que vous parcourez parcouraient les studios dans la manière, je ne sais pas, où les, peut-être les groupes se sont polarisés, où il est peut-être de plus en plus difficile de discuter et de converser.
Ah non, mais c'est devenu totalement impossible de discuter. Moi, je crois que c'est possible. En revanche, le rôle d'une revue, c'est de faire dans la longueur. Après, si j'organisais une émission de télévision, et j'en ai faite, par exemple, quand je faisais Polonium sur Paris Première, il y avait des débats, et ces débats mettaient en scène différentes personnes sur du temps long. Ce qui est très important. Le problème, c'est que les émissions de télévision aujourd'hui ont tendance à raccourcir le temps et à croire qu'une fois qu'on a mis deux personnes pendant 10 minutes face à face en sélectionnant des gens qui sont le plus opposés possible, là, on a fait du débat. Non. Donc, le rôle d'une revue papier, je pense que c'est vraiment d'emporter les lecteurs dans la longueur et dans la plénitude d'une argumentation. Et en revanche, si on veut organiser du débat, ça doit se faire de façon, là aussi, sur le temps le plus long possible, mais avec l'idée que forcément, on va avoir des positions qui seront moins subtiles dans l'argumentation que si vous avez une personne qui peut déployer sa pensée. C'est tout. Donc c'est voilà. On peut ne pas être d'accord avec moi. Non, j'ai tendance à avoir cette conviction là.
D'où la périodicité trimestrielle, d'où le format papier pour prendre le temps de la réflexion. Puisqu'on parle de débat, de diversité, de cette difficulté que vous évoquez, que les gens puissent parler ensemble sans que ça devienne du clash. En ce moment, on en sommes en plein dans la commission d'enquête qui pointe le manque de pluralisme du service public. Ça a été porté par l'Union des droites. Vous évoluez sur le service public, non pas qu'aujourd'hui, mais sur France Inter régulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce procès-là ?
Alors, je pense que cette commission a été faite évidemment dans un but, comme beaucoup de commissions parlementaires maintenant, de mise en scène et de spectacle. Et c'est une instrumentalisation des commissions parlementaires qui me semble dommageable pour le débat public. Après, il y a une chose dont j'estime qu'il faudrait que les différents acteurs du service public prennent conscience. Quand on regarde le positionnement politique et idéologique des auditeurs des radios de service public, on voit que c'est très polarisé. Ça veut dire que pour l'instant, le service public ne parle pas à la totalité de la population française. Or, c'est sa vocation de service public.
Pourtant, les chiffres sont très impressionnants, même s'ils sont en baisse, c'est des millions et des millions de personnes,
oui, bien sûr.
Les auditeurs.
Donc ah non, ça mais peut des millions. Mais si vous regardez le positionnement sur le prisme politique, il y a des sondages qui ont été faits, ça penche. Et ça, je trouve ça dommage. Et donc, je trouve qu'il faut en avoir conscience et essayer de parler à tout le monde. Ce qui ne signifie pas baisser la qualité. Parce que ce qui est essentiel pour le service public, c'est sa qualité. Sa qualité, elle est là, et je trouve les discours qui consistent à dire on va privatiser tout ça absolument délirants. C'est-à-dire que la qualité qui est mise en œuvre sur le service public, on ne pourrait pas la faire dans un média privé. C'est tout simple, ça n'est pas rentable. Donc ça doit absolument être maintenu, et le rôle de la puissance publique, c'est de garantir que télévision et radio vont rester des outils pédagogiques, des outils d'information, des outils de recherche, d'intelligence. C'est-à-dire tirer les gens vers le haut. Après, il y a une perception qui est liée parfois à certaines petites chroniques. Mais vous voyez, les auditeurs peuvent avoir tendance à juger une radio en fonction d'une ou deux chroniques qui sont mises en avant et ne pas percevoir tout le travail de qualité qui est derrière. Donc, il faut faire attention à ça parce que si on veut maintenir le service public, si on ne veut pas qu'il soit attaqué, il faut avoir conscience des endroits où ça pêche.
Voilà, donc pour vous, vous dites qu'a priori, il s'adresse peut-être un peu trop à une partie de la population et que dans les chiffres que vous avancez, il n'y aurait pas une audience totalement représentative du paysage politique qui soit à l'écoute du service public.
Je vous renvoie à un sondage qui avait été fait, d'ailleurs pour Marianne, ça devait être en 2022-2023. C'était après la présidentielle de 2022, c'est ça. Et on voyait très exactement que les auditeurs, on va dire de droite et d'extrême droite, n'écoutaient absolument pas les radios de service public. Alors, on peut considérer que c'est leur choix et que tant pis pour eux. On peut aussi se dire que peut-être qu'à un moment donné, ils se sont, et c'est possible, sentis rejetés. Donc il faut réfléchir à ça, il faut essayer de comprendre pourquoi, il faut essayer de savoir comment on fait pour récupérer tous ces gens-là.
Et vous pensez que ça explique une partie du succès, par exemple, des médias du groupe Bolloré, sur lesquels vous avez officié avant avant ce virage-là.
Alors non, j'ai
avant ce virage-là, oui, je le dis bien. Avant ce virage-là, sur Europe 1 notamment. Mais justement, vu que vous avez été avant et que vous pouvez écouter ce qui se passe aujourd'hui, comment vous qualifiez ce changement de ton ? Est-ce qu'on peut parler d'un projet idéologique ?
Mais bien sûr. Voilà. Non, mais on voit très bien. Alors, c'est un projet idéologique qui découle, à mon avis, d'une problématique en grande partie économique. C'est-à-dire que les médias aujourd'hui sont fragilisés. Alors la presse écrite, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Mais même les médias radio et télé sont fragilisés par la perte des revenus publicitaires qui vont très largement aux plateformes. Les GAFAM captent toute la manne publicitaire. Donc comment fait-on pour vivre dans ces cas-là ? Eh bien, le réflexe, c'est d'aller sécuriser son audience en parlant aux gens dont on sait qu'ils sont le noyau dur. Donc on crée des niches. Et la niche d'audience devient une niche idéologique. Les médias Bolloré, CNews, en fait, c'est une copie de ce qu'a fait Fox News. C'est-à-dire on transforme une chaîne d'information continue qui est censée donc être généraliste et pluraliste en chaîne d'opinion. De la presse écrite d'opinion, il y en a toujours eu, c'est la tradition française. La presse écrite est en train de disparaître, mais elle a toujours été, elle s'est toujours partagée entre différentes tendances. Mais sur les radios et télévisions, c'est une nouveauté. Le problème que ça pose...
Et ça contrevient justement à la question du pluralisme qui doit être respecté entre le pluralisme interne et le pluralisme externe. Sur les chaînes de radio ou de télévision, les fréquences sont limitées, donc elles ont le devoir à l'intérieur même de leurs médias de représenter le pluralisme, à l'inverse de la presse qui est une presse d'opinion. Enfin, la presse d'opinion est autorisée. Et nous verrons d'ailleurs si comment l'audace se positionne dans cette opinion-là.
Mais c'est surtout que vous avez raison de pointer un élément, le pluralisme interne. Ce qui est dangereux, selon moi, c'est le fait d'avoir des rédactions totalement monocolores et d'avoir des médias qui ne cherchent même pas à parler à la totalité des citoyens. Ils parlent à leur public. La conséquence, c'est que vous avez des gens qui vivent dans des réalités parallèles. Ils ont l'impression que le monde est différent. Et c'est d'ailleurs très, très amusant, enfin même inquiétant, de voir qu'on peut vous dire « Ah tiens, c'est dommage, on vous voit plus du tout à la télévision. » Et quand vous creusez, c'est « Ah bah oui, mais c'est parce que je regarde que CNews. » Et sauf que le réflexe qui consiste à dire « Vous n'êtes plus à la télévision », c'est parce qu'en général, c'est comme ça que ça se dit. « Ah, vous faites plus, c'est dommage. » Ben si, en fait, mais ailleurs. Je pense que le danger, c'est donc de fracturer la démocratie. On le voit tous, ça prend des proportions dingues. Mais le fait est que le travail doit être de maintenir au sein d'une rédaction des gens qui pensent différemment. Moi, ce que j'aimais dans Marianne, et c'est ce que j'ai voulu maintenir, c'est que c'est une rédaction, et c'est très rare, vous avez un prisme idéologique très large. Et Jean-François Kahn avait une façon d'organiser ça qui était extrêmement intéressante. Il s'était mis à un moment à faire des sondages internes dans la rédaction au moment des élections présidentielles.
Ce qui est une tradition d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui pratiquent.
Oui, mais les journaux ne le sortent pas en général, parce que justement... Et alors, même Jean-François, qui était assez malin, lui, il lui arrivait de bidouiller les résultats, parce que son but était de montrer qu'il y avait tout le prisme idéologique dans la rédaction.
Et donc, enfin, s'il bidouillait les résultats, ça marchait pas.
Non, mais quand je dis qu'il bidouillait, c'est-à-dire que, par exemple, s'il voyait qu'il y avait, je sais pas moi, un représentant d'un parti qui était vraiment pas représenté, il allait voir un rédacteur en chef, il disait, mais toi, t'es sûr que tu pourrais pas voter? Voilà, ça donnait ça. Mais grosso modo, c'était une rédaction plurielle. Il m'est arrivé d'être à la limite de séparer physiquement des journalistes à Marianne, parce que justement, il y avait des gens qui ne pensaient vraiment pas la même chose.
Alors vous avez dit quelque chose d'intéressant aussi, le côté un peu en silo, d'audience qui se croise, de fractures parfois générationnelles, ou d'identité politique, de conviction politique. Comment on fait quand on est l'audace, même si j'entends bien qu'il y a des voix divergentes qui s'expriment, pour aller toucher justement un public qui ne va pas naturellement être à l'aise avec une revue qui est sérieuse tout de même, avec des voix certes différentes, mais qui sont à peu près dans le même champ de la pensée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, on a des chercheurs, on a des économistes, mais comment vous allez globalement toucher des jeunes, toucher des gens qui ne sont pas habitués à prendre en main cet objet-là?
D'abord, je crois quand même que tous les jeunes ne sont pas réfractaires au fait de lire des articles d'économistes, surtout s'ils sont écrits de façon lisible. C'est-à-dire que là aussi, le travail que nous devons faire quand nous produisons des journaux, des émissions, c'est de faire en sorte de ne pas parler à nos confrères, de ne pas parler à une petite élite, mais d'écrire pour les lecteurs. Donc ça doit être lisible, compréhensible, pédagogique. Ça, c'est la base. Et c'est hélas, j'ai connu beaucoup de journalistes, par exemple, qui, en gros, écrivaient pour leurs copains journalistes et qui étaient très très fiers que leurs copains journalistes aient trouvé leur article ultra brillant. Bon, ça, c'est pas notre rôle. Le rôle des médias, c'est d'être des médiateurs, donc vraiment de faire en sorte de faire passer le savoir jusqu'aux lecteurs, jusqu'aux citoyens.
Et par ça, faut parfois emprunter des canaux qui sont les canaux de la jeunesse. Et là, pour le coup, toutes les études montrent que les jeunes s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux, par exemple.
C'est pour ça, par exemple, que quand nous avons fait une souscription pour faire vivre la revue, nous sommes allés sur les réseaux sociaux, nous sommes allés chercher les gens là où ils sont. De même, nous allons développer, ça va venir après, mais des outils qui sont des outils numériques. Mon rêve est évidemment d'avoir une chaîne YouTube et Twitch qui permettent justement d'aller chercher les plus jeunes
des chaînes
là
américaines.
Où ils sont.
Alors,
on n'a pas le choix pour l'instant, c'est-à-dire qu'on est totalement dépendant. C'est je pense que la faute ne revient pas sur les consommateurs, pas seulement. C'est-à-dire que partout où on peut consommer français, il faut le faire. Mais tant qu'il n'y aura pas une volonté politique, tant qu'il n'y aura pas une organisation des lois, des règles pour préserver les acteurs français et européens, et bien de toute façon, les gens seront pieds et poings liés. Donc sur le numérique, très clairement, c'est une question politique. Pour l'instant, on est bien obligé d'en passer par là. Alors, il faut au maximum utiliser les outils qui sont des outils souverains, mais il n'y en a pas beaucoup.
Alors, en parlant du modèle économique, donc vous avez fait une campagne, vous avez récolté quand même pas mal d'argent,
250 000 euros.
Pas de publicité ?
Non,
dans ce numéro, il n'y aura jamais de publicité ?
Non.
Très bien. Donc, comment ce journal pourra-t-il vivre ? Par le prix de son abonnement, évidemment, par les abonnés, par la vente au numéro et par...
Par ça. Et pour consolider le modèle économique, là, nous avons accueilli dans le capital les Forces Françaises de l'Industrie.
C'est
une association d'acteurs du Made in France. C'est-à-dire ce sont des entreprises dont c'est issu de la certification Origine France Garantie qui a été créée à l'époque par Yves Jégo et dont le but était d'estampiller véritablement les produits dont une majorité de la valeur ajoutée est produite sur le sol français. Et donc, les Forces Françaises de l'Industrie ont eu envie de nous soutenir, donc en entrant un petit peu au capital, minoritaire bien sûr, puisque le but, c'est quand même de garder absolument l'indépendance de la revue.
Et vous êtes quatre, je crois.
On est quatre co-actionnaires.
Voilà. Quatre co-actionnaires majoritaires, donc à vous quatre.
Oui, très largement majoritaires.
Très largement majoritaires. Et donc, ces entreprises, il y en a quoi, 10, 20, 30, 5 ?
Alors, là, on est en train de faire la levée de fonds, donc je ne sais pas combien il y en aura. C'est l'outil d'investissement des Forces Françaises de l'Industrie avec qui nous discutons. Donc tout ça est en train de se faire, en fait.
Parce que vous êtes soucieuse, évidemment, de votre indépendance. On en reparlera, justement.
Et puis de notre rentabilité.
De votre rentabilité. Généralement, ça peut aller, l'un peut aller avec l'autre.
L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que quand vous dépendez de financiers, vous n'êtes plus indépendant, justement. Donc il faut être rentable, c'est la base d'une entreprise.
Et donc vous n'avez pas peur d'être trop dépendante de ces capitaines de l'industrie
Justement non, puisqu'ils sont largement minoritaires. Et que pour l'instant, sur le premier numéro, le succès fait que notre modèle économique tient, il est positif. Donc on est assez content.
En parlant de... Vous avez évoqué Marianne, c'est normal, puisque ça a été une grande partie de votre vie professionnelle. Ça ne s'est pas très bien terminé avec Marianne, puisque vous avez quitté la rédaction, enfin plutôt vous avez été amené à quitter cette rédaction. C'était aussi pour des problèmes d'indépendance ou de non-respect de votre indépendance éditoriale ? Donc je rappelle que Marianne est détenue par un milliardaire qui s'appelle Daniel
Kretinsky,
voilà, que vous prononcez très bien,
qui m'a fait confiance en 2018, c'est-à-dire que quand il m'a proposé de prendre la direction de la rédaction de Marianne, il savait pertinemment que idéologiquement nous étions pas du tout sur la même ligne. Il considérait que je correspondais à l'identité de Marianne,
et ça a marché assez longtemps.
Et je dois dire que il a été d'un respect absolu. Et qu'il ne se mêlait pas du contenu de Marianne, alors même que pense et je, voilà, qu'il devait recevoir assez souvent des coups de fil.
Alors qu'est-ce qui a fait que ça n'a plus marché à un moment donné?
Ben, sans doute qu'il y a des choses qui se tendent, sans doute qu'il y a des moments où la pression devient plus compliquée. Voilà, ça fait partie de la vie des médias, mais vous savez, habituellement, ça ne se passe pas comme ça, ou moins, parce que habituellement, un actionnaire choisit un directeur de rédaction qui est aligné. Donc, il n'y a pas besoin de passer des coups de fil et il n'y a pas besoin, à un moment donné, de s'énerver.
Non, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, il a eu cette audace d'aller vous prendre vous.
Et je peux lui rendre hommage, ça a été formidable.
Et ça a marché quand même plusieurs années. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne marche plus? C'est-à-dire que ça devient trop intense,
parce
que le climat s'est tendu.
Parce que je pense que le climat politique se tend terriblement. Et que, en fait, on voit se constituer. On va dire un pôle. Alors le pôle Bolloré, c'est-à-dire un pôle clairement d'extrême droite, avec un agenda choc des civilisations, nouvelle forme d'affirmation de religieuse, etc. Et de l'autre, on a un pôle de médias qui vont être beaucoup plus alignés sur. Une vision, allez, plus centriste, parfois autoritaire des choses, c'est-à-dire le soutien à l'Union européenne telle qu'elle est, c'est-à-dire
le centre autoritaire. Vision... Alors c'est ça le concept.
Le centrisme autoritaire, ça existe, ouais. Mmh. C'est un truc donc qu'on a beaucoup vu ces dernières années parce que le macronisme a quand même incarner une forme de quintessence de ce système-là. Et donc, dans ces deux pôles, vous voyez, ça devient de plus en plus difficile de faire entendre une opposition à cette forme de système économique dérégulé, appuyé sur le libre-échange, qui ne soit pas dans les extrêmes. Or, moi, j'estime que c'est quelque chose d'extrêmement important que de pouvoir être ailleurs qu'aux extrêmes, donc dans la raison, la mesure, la nuance, mais tout en défendant une vision qui soit une vision fondée par exemple sur l'idée de la souveraineté comme étant la définition de la démocratie, sur l'idée de que le projet républicain doit s'appliquer à travers la justice sociale, la méritocratie, tout ce genre de choses, donc auxquelles moi je n'ai pas renoncé, ça doit pouvoir s'exprimer sans basculer soit dans l'identitarisme, soit dans des violences et une vision caricaturale des choses.
Il était question à un moment donné qu'un autre milliardaire ou multimillionnaire, Pierre-Édouard Sterrin, reprenne le magazine Marianne. Quel était votre point de vue sur cette hypothèse-là?
Quand Denis Oliven m'a annoncé cela, la vente à Pierre-Édouard Sterrin, je lui ai dit que je m'en allais. Finalement, la rédaction m'a voté un vote unanime de confiance pour me demander de protéger l'indépendance du journal. Et donc, j'ai fait le choix à ce moment-là de ne pas partir pour essayer de négocier au maximum des garanties pour la rédaction si cela devait se passer. Voilà, ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas fait, et c'est...
Comment on peut analyser justement le Pierre-Édouard Sterrin par rapport justement au groupe Bolloré? Est-ce qu'on est sur une même ligne? Quelles sont justement les nuances?
Je pense qu'il y a des nuances dans le sens où... Enfin, je dis des nuances... Oui, il y a un côté plus... libertarien, il me semble, dans ce qu'affirme Pierre-Édouard Sterrin. Après, je suis pas exégète de sa pensée, mais ce que je lis de ses affirmations me semble aller beaucoup justement dans cette ligne, mais qui est en train de s'étendre aussi du côté du groupe Bolloré, hein, de toute façon. Donc la façon de se calquer sur les propos de Javier Milei, sur ce genre de choses. Mmh. Oui, on voit bien que tout ça est en train de gagner petit à petit. C'est-à-dire la destruction des services publics, de l'État, les coupes dans les budgets, mais de façon totalement indistincte, parce que pour ma part, je pense qu'il y a des dépenses à couper et une rationalisation de l'action de l'État et des collectivités qui me semble essentielle, mais c'est pas pour ça qu'il faut y aller justement à la tronçonneuse ou à la hache ou avec quoi que ce soit d'autre. Il y a un respect à avoir et surtout une compréhension des mécanismes. Donc voilà, on voit tout ça s'affirmer et je pense que l'espèce d'idéologie libertaire fascinée par la tech façon Elon Musk me semble pas un modèle très appréciable.
Justement, quand Pierre-Edouard Sterrin a cherché à reprendre ce journal, on a cru lire une association avec quelqu'un comme Arnaud Montebourg, qui lui aussi a beaucoup défendu le Made in France et finalement des lignes qui sont parfois assez proches de les vôtres. Oui, comment vous arrivez justement à expliquer, à naviguer? Est-ce que vous vous sentez assez proche de ces idées-là?
Non, mais je crois, alors là aussi, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais il me semble que la situation était que Arnaud Montebourg était en affaire sur des sujets très précis, notamment liés à des investissements dans le nucléaire, des choses comme ça. Voilà, en tant qu'entrepreneur. Ce qui ne signifie pas qu'il y ait une adhésion à des idées, c'est très différent. Après, la défense des intérêts français et le patriotisme économique peut être partagé par des gens qui ont des visions très divergentes de ce que c'est que la République et de ce que c'est que l'organisation sociale. Vous voyez, ce sont des choses différentes. Moi, je combine le patriotisme économique avec une vision de la République laïque et sociale. Vous voyez, et dans mon esprit, ça va avec, en fait.
France Culture. La fabrique de l'information, François Celtiel.
Et aujourd'hui, en compagnie de Natacha Polony, qui nous parle de son audace et de l'audace, qui est le titre de sa revue trimestrielle sortie il y a un mois, l'occasion de parler de notre paysage médiatique, de la manière dont il est bouleversé, dont il évolue, et puis l'occasion de retrouver, bien sûr, avec grand plaisir, Courrier International avec vous, Julien. Pour cette première de l'année, on fait une sorte de miroir inversé, hein, puisque c'est l'actualité du monde, vue par la presse étrangère, mais aussi celle de l'actualité française que vous nous proposer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vu de l'étranger, 2025 aura été une année tumultueuse pour la France.
Effectivement, et pour s'en rendre compte, on peut passer en revue les unes des numéros que nous avons consacrés à la France durant l'année écoulée. En janvier, nous sortions hors série que nous avions intitulée « Le vertige français ». En février, nous consacrions une couverture à l'impossible dialogue entre la France et l'Algérie autour de l'affaire Boualem-Sansal. En septembre, nous titrions « France, retour à la casse-cao au plus fort de la crise politique et sociale ». Et en novembre, nous nous demandions jusqu'où ira le Rassemblement national. Pour parler aussi de l'actualité française, on peut également feuilleter le dernier numéro de l'année de Courrier International, toujours en kiosque, qui propose comme tous les ans un récapitulatif de l'année 2025 en dessin paru dans la presse étrangère.
Ouais, puisque vous parlez de dessin, je renvoie aussi à notre précédente émission sur les caricaturistes de presse, notamment avec Patrick Chapacte et Coco. Alors quels ont été les événements les plus marquants de l'année en France pour la presse étrangère?
Dans la presse étrangère et européenne en particulier, il a beaucoup été question du blocage politique et institutionnel du pays. Je vais citer deux articles. La France traverse la pire crise politique de son histoire depuis 1958. Le second mandat de Macron, qui s'achève en 2027, apparaissait compliqué dès sa réélection, mais personne n'aurait pu prédire l'ampleur du désastre. C'est ce qu'écrivait El País, le quotidien espagnol, en octobre, pour qui cette crise politique s'inscrit dans un déclin de la France. Autre média, le Süddeutsche Zeitung, qui lui fustige, je la cite, « la puissance de l'ordre établi, l'emprise solide des traditions, de l'idéologie et des éléments de langage qui empêchent, selon le journal allemand, la France, par exemple, de former une grande coalition de partis de gouvernement, comme dans d'autres pays européens. Et ce, pour le journal, au détriment des intérêts politiques de la France, des exigences du moment ou les considérations pour l'avenir. » Il y a fort à parier que la presse étrangère continuera à suivre attentivement l'actualité politique en 2026, avec les élections municipales qui arrivent et à un an de l'élection présidentielle en 2027.
Alors, deux épisodes politico-judiciaires ont particulièrement passionné la presse étrangère.
Oh oui. D'abord, la condamnation en mars de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire en première instance dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Son procès en appel débute le 13 janvier, si je ne me trompe pas. Une partie de la presse étrangère s'était à l'époque étonnée du débat sur la légitimité de cette décision judiciaire. Je cite par exemple le journal suisse Le Temps. « La méfiance vis-à-vis de la justice et l'instrumentalisation de cette méfiance sont un danger que doivent affronter nos démocraties. » Aux yeux des observateurs étrangers, cette décision plaçait Jordan Bardella en première ligne. Or, s'interrogeait le quotidien italien Il Corriere della Sera, est-il prêt ? Autre affaire, évidemment la condamnation en septembre de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des soupçons de financement libyen et son incarcération aussi ont fait couler beaucoup d'encre dans la presse internationale. Ma consoeur Mélanie Chenoir était venue nous en parler, mais je vais citer un des articles qu'elle avait cité. Sarkozy, restera dans les mémoires comme l'escroc qui a traîné dans la fange non seulement la fonction présidentielle, mais la République tout entière, écrivait alors le Daily Telegraph. La sortie tout récemment de son livre « Le journal d'un prisonnier », racontant ses 20 jours de détention, a suscité également de nombreux articles, notamment les passages dans lesquels il rompt avec le front républicain face au RN, la honte après le déshonneur, jugé cinglant le quotidien belge le soir.
Et là encore, hein, je renvoie à la Fabrique de l'Info, c'est l'occasion qui avait accordé une émission sur le traitement médiatique de l'affaire Sarkozy, notamment avec une journaliste de Paris Match qui avait expliqué le positionnement éditorial de son journal, et puis un journaliste du Figaro et de Mediapart. C'était une discussion fort intéressante. Et puis il y a évidemment le cambriolage du Louvre.
Oh oui, il y en a beaucoup été question dans la presse internationale. Je vais citer là le journal espagnol El Mundo, qui écrivait au lendemain du cambriolage. Tous les Français ont alors pensé à Arsène Lupin, mais les voleurs ont troqué le frac, le haut de forme et la voiture pour le scooter, la tronçonneuse et l'échafaudage. Si quelque chose a été perdu en ces temps d'incertitude, c'est la classe, ironisait le journal. Mais globalement, la presse étrangère a été choquée par ce vol et certains y ont vu le symbole d'un certain déclin de la France. Ce braquage a réveillé les deux grandes angoisses des Français, la peur de l'insécurité et celle du déclin de la France, tentait de résumer le quotidien britannique The Spectator. La France est comme une famille aristocratique au bord de la faillite, écrivait The Local. Il jouit d'innombrables possessions, cathédrales, châteaux, musées, mais il n'a ni les moyens, ni la volonté d'en prendre soin correctement.
Voilà, on a cité au moins un déclin 5 ou 6 fois depuis le début de l'émission. Julien, rassurez-moi, tout n'est pas si sombre que cela.
Non, évidemment, bien sûr. Derrière cette actualité anxiogène, la presse étrangère a aussi su raconter de belles histoires de France et sur ces sacrés Français. Je pourrais parler du récit émerveillé d'un journaliste du Wall Street Journal de la cathédrale Notre-Dame, restaurée il y a plus d'un an, ou ce reportage du média néerlandais NRC Handelsblatt dans un EHPAD modèle pour seniors à Kersalik, à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor. Mais j'ai choisi de parler de l'incroyable succès du jeu de rôle Clair-Obscur Expédition 33 du studio tricolore Sunfall Interactive, qui a remporté 9 récompenses, dont celle du jeu de l'année lors des derniers Games Awards en décembre, l'équivalent des Oscars du jeu vidéo. Mm-hmm. The Guardian écrivait « Il s'agit du jeu le plus furieusement français » auquel on pourra jamais jouer.
Voilà, on reconnaît effectivement l'esprit du Guardian dans cette citation. Merci beaucoup, Julien. Une réaction peut-être à sa revue de presse internationale et cette perception de la France à l'étranger ?
C'est finalement une perception assez juste, c'est-à-dire qu'il y a des grandeurs françaises, il y a une richesse, il y a même une énergie, et on voit avec ce jeu vidéo quelque chose de créatif, de très novateur. On pourrait citer aussi ce petit clip publicitaire qui a fait le tour du monde avec ce loup tout mignon qui veut se faire des amis.
C'était une publicité d'ailleurs pour Intermarché, un supermarché français.
Donc tout ça prouve qu'il y a dans ce pays des ressources absolument extraordinaires. Mais de fait, il y a une crise politique qui est inédite, et je partage le point de vue, à savoir que c'est en fait la fin du cycle de la Ve République. C'est-à-dire que 1958, ça a été une remise à plat de tout, c'est-à-dire qu'il faut bien se souvenir que quand le général de Gaulle arrive en 58, d'abord, première chose qu'il fait, il dévalue 2 fois, énormément, pour retrouver un souffle économique. Ça, on peut plus le faire, donc il faut inventer d'autres choses. Et derrière, il remet à plat les universités, les hôpitaux, avec une légitimité politique qui lui permet ça. Bon, c'est ce pacte politique et social qu'il va falloir remettre en œuvre, parce que tout le monde voit bien que nous sommes arrivés au bout de quelque chose et que les institutions, à force d'avoir été tordues dans tous les sens, ne permettent plus de faire surgir la volonté majoritaire. Or, c'est ça le rôle des institutions, c'est de permettre d'exprimer ce qu'on appelle la souveraineté du peuple, c'est-à-dire le choix majoritaire d'un destin commun vers lequel les citoyens veulent aller.
Mais c'est ça qu'on ressent dans l'audace, c'est qu'au-delà de sa fonction d'un média, c'est-à-dire d'analyser les choses, de les synthétiser, de les transmettre, on sent qu'il y a une volonté d'action dans votre titre, voire même d'action politique. Est-ce que vous considérez justement que d'ailleurs on le voit bien même dans votre triptyque, penser, produire, construire. Donc il y a une volonté de mise en action, presque une volonté programmatique que l'on peut lire dans l'audace.
Mais nous sommes tous des citoyens, quel que soit notre métier, quelles que soient nos fonctions. J'appartiens à ce pays et je crois viscéralement que le modèle républicain, c'est-à-dire l'idée d'un peuple souverain qui décide de son destin, c'est absolument génial. J'ai envie que ça se perpétue. Ça nécessite que chacun soit engagé. Je veux dire, citoyen engagé, c'est un pléonasme. Je veux dire, quand on est citoyen, on essaye de faire ce qu'on peut pour la collectivité. Donc, à travers les médias, on le fait, d'abord en apportant de l'information ou en apportant des idées et des réflexions, puisque là, c'est une revue, donc c'est plutôt sur le thème des idées. Et ensuite, en permettant aux citoyens eux-mêmes de jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que le rôle des médias, c'est d'être un outil démocratique.
Est-ce que ça correspond justement à une attente des Français, de ce qu'on attend par exemple, le journalisme de solutions ? Parce qu'on sent qu'il y a une fatigue informationnelle, oui. Tous les baromètres le montrent, où les Français sont un peu sidérés par une actualité anxiogène, etc. Puisqu'on a parlé de déclin, ce sont des mots justement qui vont activer ce côté de l'anxiété en fait, du lecteur ou de la lectrice. Est-ce que le passage à l'action que vous proposez aussi dans votre média est une bonne manière de sortir de
bien
cette
sûr.
Impasse.
Mais bien sûr, parce que ce qui nous tue, c'est l'impression d'impuissance. C'est les discours sur le thème. Souvenez-vous, d'ailleurs, ça avait coûté à Lionel Jospin sa place au second tour de l'élection présidentielle. Oh, l'État ne peut pas tout. Mmh. Voilà. Donc, on ne peut rien faire contre le chômage, contre la désindustrialisation. Si on pouvait, on pouvait et on peut. Il y a des solutions. Il faut les inventer, il faut les mettre sur la table. Parce que cette impuissance, elle dégoûte les gens de la démocratie. Et c'est pour ça que vous avez des tentations régulièrement des sondages, finalement il faudrait peut-être un chef de l'autorité. En fait, ce que les gens attendent, c'est de la volonté politique. Sauf que cette volonté politique, elle peut s'exprimer façon Donald Trump ou elle peut s'exprimer de façon démocratique et républicaine avec les valeurs qui sont les nôtres. Vous voyez, il y a différentes manières. Mais cette volonté politique, elle est absolument nécessaire. Et en revanche, ce qui me rend dingue, c'est que dans le débat public, tout cela est depuis des années caricaturé. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous critiquer les choses telles qu'elles sont, par exemple, là, quand on titre « Comment la France et l'Europe se sont sabordées », immédiatement, on vous dit « Oh, vous êtes décliniste, vous êtes pessimiste, il faut être
optimiste. » Oui,
il faut être optimiste.
Enfin, j'ai pas dit qu'il faut être optimiste, j'ai dit que parfois c'était aussi une fibre sur laquelle un peu catastrophisme, d'ailleurs, qui est très employée par les médias, par tous les médias. Mais on en a également fait une émission sur les biais de négativité, etc., que l'on aime tous.
Je suis navrée, mais quand l'industrie passe à moins de 10% dans le PIB de la nation, c'est qu'il y a un énorme problème. Quand vous avez des Français qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, il y a un énorme problème. Donc c'est pas être pessimiste que dire ça. Et c'est, vous savez, ça m'a toujours fait rire. Par exemple, c'est une des phrases qu'employait beaucoup Emmanuel Macron en 2017 et même d'ailleurs dans les années récentes. N'écoutez pas les Cassandres. Voilà, parce qu'il fallait être positif et optimiste.
Alors, ce sont les Cassandres qui disent la vérité.
C'est-à-dire que voilà, Cassandre, dans la mythologie...
On se tue de ne pas les avoir écoutés.
C'est ça, Cassandre, dans la mythologie, elle a été condamnée par les dieux à dire la vérité et à n'être jamais crue. Donc oui, il faut écouter les Cassandres. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut se complaire dans l'observation du déclin. Un décliniste, oui, ça existe. Ce sont des gens qui jouissent de décrire le fait que rien ne va. C'est pour ça que je considère, moi, que quand on décrit quelque chose qui ne va pas, il faut proposer une autre manière de faire. C'est tout. C'est-à-dire que, justement, il faut se projeter dans un avenir positif.
Là, si d'un coup je décontextualisais vos propos, c'était presque une parole politique.
Mais en fait, je ne fais pas la différence.
Mais ça, c'est intéressant. Vous avez d'ailleurs démarré votre carrière professionnelle par une activité politique. On n'en a pas encore parlé. Où vous avez soutenu Jean-Pierre Chevènement. Vous avez
été engagé. Oui, bien sûr. C'était avant d'être journaliste. J'étais jeune. Je venais de démissionner de l'Éducation nationale et je voulais m'engager parce que je ne voulais pas que les choses restent en l'état. Et je me disais, on ne peut pas rester à ne rien faire. Donc, je suis allée prendre ma carte au fin fond du 20e arrondissement dans une permanence un peu triste. J'ai dit, bonjour, voilà, je voudrais m'engager. Bon. Et quand je suis arrivée à Marianne, je veux dire, j'ai trouvé
un
endroit...
Comment se fait ce passage, excusez-moi, entre l'activité... Donc, vous l'avez dit, un poste d'enseignante, vous quittez, vous lancez en politique. Et puis, comment vous arrivez dans le journalisme sans passer donc par des écoles, sans passer par une formation ?
Non, tout simplement, je suis allée proposer des piges à Marianne parce que j'avais besoin de gagner ma vie et que c'était le journal qui correspondait aux idées qui étaient les miennes.
Sur l'éducation à ce moment-là, parce que fort de votre expérience.
Voilà, il se trouve que j'avais été prof. J'ai continué par la suite pendant 9 ans, en même temps, en parallèle, à enseigner à la fac Léonard de Vinci. Donc, c'est le sujet de l'éducation est pour moi le sujet central. Parce que justement, nous avons, enfin, c'est l'idée défendue par Condorcet. Il ne le disait pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Sans un peuple éduqué, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. Mmh. Et on le voit dans certains pays. Donc, il vaut mieux, ça va avec l'éducation et la démocratie, c'est indissociable. Donc, je crois que c'est le sujet crucial. Et donc, quand je suis arrivée à Marianne, Jean-François Kahn considérait que de toute façon, le journalisme, c'était un engagement. C'est-à-dire que il ne s'est jamais demandé si il fallait éviter de défendre des idées. Lui, il disait, voilà, ce qui compte, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que les lecteurs savent d'où je parle, ils savent que j'ai des convictions, et simplement, quand le réel vient contredire ce que vous pensez, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et il faut décrire le réel le plus honnêtement possible. Voilà. Mais après, on a des valeurs. Jean-François Kahn était quelqu'un qui avait des valeurs ancrées, à la fois la foi en l'Europe, la foi en la République, la défense de la laïcité. Voilà, tout ça, ça faisait un prisme idéologique. Bon, mais je veux dire, tout le monde a des prismes idéologiques. Et nous sommes tous des citoyens avec nos convictions, bien sûr.
Voilà, on est tous des citoyens avec nos convictions. On est donc parfois des journalistes avec des convictions, puis des journalistes qui peuvent franchir le pas dans une carrière politique. Ça me faisait penser, en vous écoutant, à l'émission de France 2 On n'est pas couché, sur laquelle vous avez participé. On voit que bon nombre de ces chroniqueurs ont basculé ou ont bifurqué vers une carrière politique. Audrey Pulvar à une petite échelle, Zemmour, évidemment, dans une volonté de présidentielle, ou encore Émeric Caron. C'est quelque chose qui pourrait aussi...
Parce que cette émission mettait dans une position qui, justement, faisait sortir de la neutralité journalistique officielle.
Pas.
Qui n'existe pas, on est bien d'accord. C'est pour ça que j'insiste sur l'honnêteté intellectuelle. C'est pas la même chose. Parce que ceux qui vous disent, moi je suis journaliste, donc je suis neutre et objectif, en général, ils vous font passer leurs idées en fraude. Ils vous font croire qu'ils sont neutres, mais pour mieux vous convaincre. Donc, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut... justement, dire d'où l'on parle, quelles sont les valeurs que l'on a chevillées au corps, et derrière, je vous le disais, analyser le plus honnêtement possible, donner les clés de compréhension, etc.
Mais ma question, c'était est-ce que éventuellement vous iriez vers une carrière politique, sachant que vous venez de là, en plus, donc ça ne serait pas non plus une sorte de boucle boucle.
Voilà, ce serait pas absurde. Là, pour l'instant, je crée une revue et je veux que cette revue fonctionne et que je veux que cette revue agrège
des
gens.
Vous le savez, vous parlez justement tout à l'heure d'indépendance et de rentabilité, l'un ne va pas sans l'autre. Parfois, lorsqu'on crée une revue, on crée aussi une plateforme d'opinion et de diffusion qui peut préparer justement à un retour en politique vous concernant.
C'est parfaitement possible, je vais vous dire. Pour l'instant, ce que je crois, c'est qu'on a besoin d'idées. Et donc, dans ma vie, je suis toujours allée là où je me sentais utile. Voilà. Donc, je ne sais pas où je me sentirai utile un jour peut-être, j'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas de plan de carrière. En revanche, je sais que là, ce qui manque pour la France, c'est de la réflexion. C'est exactement le travail qu'on fait. Alors, quelle que soit la manière dont on le qualifie. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un travail de think tank? C'est en tout cas d'apporter des idées, des arguments et de montrer qu'il y a la possibilité de mener des politiques différentes, de penser aussi l'avenir. Parce que c'est pas seulement des propositions, c'est aussi des analyses. Par exemple, l'idée, c'est d'essayer de comprendre les enjeux futurs. Vous voyez, quand on fait un papier sur ce que l'IA va changer dans la pédagogie et la transmission, c'est parce que je pense que les politiques devraient réfléchir à ça. Quand j'étais à Marianne, on avait fait une série de hors-série, justement, avant la présidentielle de 2022, et je les avais sous-titrés « Ces débats que les politiques devraient avoir ». Donc, mon obsession, c'est ça. C'est d'aller chercher les angles morts, les endroits où, hélas, le travail n'est pas fait, le travail intellectuel, idéologique, et où on ne se prépare pas à penser les choses. Donc là, le projet de l'audace, c'est ça. C'est d'essayer d'apporter des réflexions partout et de dire « Attention, tel sujet va arriver, il faut absolument être préparé ». Et la question de, enfin, les bouleversements de l'IA, du numérique, la question de souveraineté numérique, c'est quelque chose, enfin, si on n'y réfléchit pas, nous sommes déjà une colonie américaine. Si on ne prend pas en compte le raz-de-marée qui est en train de se passer, d'ailleurs même dans le sujet des ingérences dans les futures campagnes ou tout simplement dans la manière dont ce modèle l'a pensé, on va être laminé.
On pourra justement reparler de numérique dans un instant, mais pour terminer sur cette question, et ça sera la dernière sur ce chapitre-là, si on fait un petit peu de politique fiction, si vous deviez vous engager en politique, est-ce qu'il y aurait un endroit sur lequel vous pourriez vous sentir bien par rapport à l'offre existante, ou encore c'est un angle mort, il faudrait donc l'inventer et...
Bah, le principe, c'est que vous savez, si j'ai créé l'audace, c'est parce que je pensais qu'il y avait un manque. Il y a un manque sur le champ médiatique et idéologique.
Ça, on l'a compris, mais là, je parle du champ politique.
Bah, je pense qu'il y a un manque aussi. C'est-à-dire que, très franchement, et je le dis depuis des mois, ce que je crois, moi, c'est qu'il y a une carence d'offres. C'est-à-dire que ce qui m'inquiète beaucoup dans l'état du débat politique actuellement, c'est que vous avez des forces politiques qui ont acté le fait qu'elles étaient minoritaires et qui veulent gouverner alors même qu'elle ne cherche pas à convaincre et à proposer un projet pour la majorité des citoyens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un blocage à l'Assemblée. On a un Rassemblement national qui refuse de voir qu'une majorité de Français ne veut pas du Rassemblement national au pouvoir. On a un bloc central qui ne veut pas voir qu'on a une majorité de Français qui veulent un changement sur le plan économique, dans la vision du néolibéralisme, du libre-échange. Et on a un bloc Nouveau Front Populaire largement dominé par les Insoumis qui ne veulent pas voir qu'il y a une majorité de Français qui ne pensent pas que la police tue et qui ne veulent pas de communautarisme. C'est ça le sujet. Donc comment on fait face à ça? Et le blocage politique vient de là. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'on est en train de s'empêcher d'agir, parce que pendant ce temps-là, le reste du monde bouge. Pendant ce temps-là, nous, nos entreprises, nos paysans sont en train de crever. Et donc, le pays s'appauvrit. Et donc, les services publics se rétractent. Enfin, la situation est délirante. On voit partout des services publics qui ferment, que ce soit des hôpitaux, que ce soit que ce soit des postes. Je veux dire, il faut se balader dans le Berry, dans la Creuse, où on voit des gens qui se sentent abandonnés, mais c'est avec un degré de pauvreté dingue.
Là, vous dites qu'il faut se balader, lorsqu'on voit justement les attentes des gens dans leur journalisme, ce qu'ils souhaitent aussi, c'est du journalisme de terrain, le plus possible,
sûr.
Et moins des journalistes qu'on appelle de plateau. Est-ce que l'audace pourra répondre à cette promesse? Alors, je sais que vous allez organiser des rencontres, etc., je l'ai bien entendu, mais là je parle de reportage, parce que s'il y a encore un genre qui est un peu moins entaché de la défiance qui entoure notre métier, c'est peut-être celui de reporter. C'est-à-dire que les gens disent, il y a trop de blabla sur les plateaux, et vous y avez participer en étant invité, on le sait bien, et un peu moins de terrain.
Alors, c'est justement pour ça que nous avons dans la revue, d'abord, un portfolio sur un artisan d'art, à chaque fois, il y aura dans tous les numéros, pour aller regarder justement quelque chose de positif, parce que quand même, il y a des choses merveilleuses.
Nos régions ont du talent.
Écoutez, c'est pas indigne de dire qu'il y a dans chaque région, dans chaque terroir de France, des savoir-faire. Moi, je suis profondément attachée à l'intelligence de la main. Je crois que c'est quelque chose qui a été méprisé et c'est un drame.
Que vous pratiquez d'ailleurs vous-même.
Oui,
cette intelligence de la main vers la couture. Parce
voilà,
que vous avez un atelier.
Exactement. Et je sais ce que c'est de se confronter à la matière. Je sais quel degré de compétence ça nécessite pour produire quelque chose qui soit bien fait. Donc, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui travaillent dans des métiers manuels. Donc, il y a un portfolio sur un artisan d'art, et il y a à chaque fois le portrait d'une ville du point de vue à la fois de son histoire industrielle et culturelle. Donc, et pas des métropoles. On va aller dans toutes les sous-préfectures de France, en fait. Et je pense que ça, c'est du terrain, ça raconte la vie des gens. Alors après, on est une revue, on n'est pas un journal, je n'ai pas une rédaction. Donc, on fait avec les moyens qu'on a.
Tout en étant directrice de la rédaction dans ce journal.
Alors, ça s'appelle directrice de la rédaction. En fait, moi, je dis directrice de l'audace, parce que on n'est pas une rédaction quand on est aussi peu nombreux. On est un petit groupe avec des gens qui croient en ce qu'ils font, qui ont tous un talent. Il faut citer Gérald Andrieux, qui s'occupe avec moi de la conception de la revue et qui fait, avec notre directeur artistique, Brice Daven, tout l'editing. D'abord, Brice a un talent, parce que c'est un objet magnifique. Et Gérald est un journaliste, pour le coup, vous parliez de terrain. Il a écrit un livre qui s'appelle Le peuple des frontières, parce que pendant la campagne 2016-2017, il a pris son sac à dos et il est allé faire les frontières françaises de Dunkerque à Vintimille à pied en logeant chez l'habitant. Ça, c'est du vrai journalisme. Les gens qu'il a rencontrés, c'est des gens que les journalistes en général ne rencontrent pas. Donc c'est pour ça que je l'adore, c'est pour ça qu'il est un excellent journaliste et qu'il fait l'audace. Vous voyez comme quoi le terrain, c'est très important et on en a conscience.
Voilà, moi je retiendrai que votre vrai poste, c'est donc directrice de l'audace, ce qui est encore plus classe d'être directrice de l'audace que directrice d'une rédaction légère. On vous souhaite bonne chance, Natacha Polony, pour cette audace qui a donc ouvert cette année 2026. On suivra tout cela de près, comme votre future carrière politique, puisque vous l'avez
à moitié
sûr.
À moitié annoncé ici c'est dans ça. La fabrique de l'information.
Alors écoutez, c'est pas fait.
On sortira l'archive. Merci beaucoup, Julien.
Merci.
Et toute la rédaction de Courrier International qu'on remercie, notre partenaire qui sera là également en cette année 2026. Lui aussi, un bel objet de papier, le papier que l'on loue dans la fabrique tout en étant ouvert évidemment aux outils numériques et aux réseaux sociaux qui composent notre paysage numérique. À la préparation de cette émission, comme l'an dernier, et ce sera le cas jusqu'à la fin 2026, si tout va bien, Joséphine Reynhardt à la réalisation. Sorge Leroy, c'était la Fabrique de l'Info. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.